Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, d'où viennent les Français? Une histoire des migrations en France. Tout homme a deux patries, la sienne et puis la France. Benjamin Franklin. D'histoire. Il est loin le temps où les instituteurs de la Troisième République apprenaient sans rire à leurs élèves sénégalais, algériens ou vietnamiens que leurs ancêtres étaient des Gaulois. C'était dans un empire qui a disparu et avec lui l'idée que les Français se font d'eux-mêmes et de leurs origines. Puisqu'aujourd'hui, par une étrange ironie de l'histoire, près du quart des Gaulois que nous sommes sont des enfants ou des petits-enfants d'immigrés. Si on ajoute que les autres ont pour la plupart des origines paysannes et descendent de ces ruraux qui depuis 150 ans ont quitté les campagnes, on mesure à quel point l'exode rural et l'immigration ont transformé la population française, qu'on le veuille ou non.
Moi, j'aime pas les étrangers. Non, parce qu'ils viennent manger le pain des Français. Vous voyez, je suis français, moi, ouais, et je suis fier d'être français. Mon nom, moi je m'appelle Kulakiarstensky. Du côté de ma mère, et Piazzano Venditti. Du côté d'un copain à mon père. Dans le village où j'habite, on a un étranger. Souvent je lui dis Foulka. Pourquoi tu viens manger le pain des Français? Alors il a pris sa femme, ses enfants, il est monté sur un bateau, et depuis ce jour-là, ben, on mange plus de pain. Dans les... Il était boulanger.
Jean-Pierre Guénaud et Marc Poitier, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Fernand Reynaud prouvant qu'un peu d'humour peut être aussi efficace que n'importe quel grand discours contre le racisme ou la xénophobie. Et cela dans un pays, vous le rappelez tous les deux dans deux livres, qui a été très profondément transformé par deux migrations, l'exode rural et l'immigration. Vous, Marc Poitier, dans un dialogue avec Jean Viard sur nos origines et qui est publié aux éditions de l'Aube. Et vous, Jean-Pierre Guénaud, dans un livre, Cher pays de mon enfance, profil de déraciné. Il s'agit en fait d'une initiative assez originale de Radio France, d'ailleurs, entre autres. Ce sont des lettres.
Oui, nous avons demandé à nos auditeurs de nous envoyer toutes les lettres, tous les journaux intimes, tous les témoignages de déracinés qui pouvaient dormir dans leurs archives. L'originalité, c'est qu'on a mis sur le même plan l'immigré de fraîche date, la petite Lélie de Somalie de la chanson de Pierre Perret, et puis deux Français sur trois qui, comme vous le rappeliez à l'instant, Patrice Gélinet, sont le fruit de l'exode rural. Et on voit très bien qu'en fin de compte, entre l'immigré de fraîche date et cette arrière-grand-mère, bretonne, berrichonne, picarde, auvergnate ou que sais-je, qui a quitté son bourg dans les années 20 en ne parlant pas un mot de français, les points communs sont beaucoup plus nombreux que nous pouvons le penser.
Et cela prouve, puisque c'est le titre de votre livre, que Cher pays de mon enfance, c'est un peu un mythe, justement avec les chiffres que vous nous donnez, parce que pour beaucoup de Français, le pays d'enfance ou le pays d'enfance de leurs parents ou de leurs grands-parents, bah c'est pas la France, Marc Poitier.
En effet, la France est un pays qui est composé de multiples vagues migratoires, d'étrangers venus, bien évidemment, d'Europe à partir du milieu du XIXe siècle, et puis d'autres vagues migratoires venant de beaucoup plus loin. Mais en effet, nous avons à peu près un tiers de la population française qui a trois générations et d'origine étrangère. Ce qui fait de la France un des pays phares de cette composition multiple. Au même titre que les États-Unis, que l'Argentine, nous sommes une sorte d'exception, et cette exception, elle est la résultante finalement de plusieurs choses, d'un comportement aussi démographique très particulier. Nous sommes les précurseurs de ce qu'on a appelé le malthusianisme, donc nous avons dès le 19e siècle limité nos naissances, et il fallait trouver finalement des compensations à cette faiblesse humaine. Alors, et ce sont les étrangers qui vont être justement ce recours.
Alors, autre migration peut-être même encore plus importante, et que l'on retrouve, c'était l'originalité de vos deux livres d'ailleurs, c'est l'exode rural, parce que pour beaucoup de Français, la région où ils vivent n'est pas du tout leur région d'origine.
Oui, c'est une chose très ancienne. C'est une chose très ancienne. En fait, c'est la Révolution française qui a fait des Français des micropropriétaires qui se sont accrochés à leurs terres d'une façon incroyable. Il y a un chiffre tout à fait étonnant. En 1850, en Angleterre, la Révolution industrielle est faite et il n'y a plus qu'un quart des populations qui sont dans les campagnes. À la même date en France, il n'y a qu'un quart de la population qui soit dans les villes.
Et vous le rappelez aussi d'ailleurs, l'équilibre entre ruraux et urbains, population urbaine et rurale, ne s'est fait qu'en 1931, ce qui prouve d'ailleurs que le mouvement, vous le dites, d'exode rural a commencé assez tard, et que beaucoup plus tard, même que dans d'autres pays industriels, et cela à cause peut-être d'un mythe entretenu sous la Troisième République, mais aussi jusque dans les années 1940 par le maréchal.
La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre retour. Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau enblavée, c'est une portion de France qui renaît.
Le mont, le grain de la lumière, ce mont, le grain de la beauté, de la terre nourricière. Jailliront les fleurs de liberté, aimant pour la France éternelle, donnons nos cœurs, donnons nos bras, la plus belle pour nous c'est elle, c'est par nous qu'elle vivra.
Semons le grain de la lumière, une chanson d'André Dasseri qui s'était rendu tristement célèbre en chantant également Maréchal, nous voilà. Alors Pétain, le culte de la terre, c'est une des raisons qui retarde justement cet exode rural en France, et cela jusque dans les années 40, on vient de l'entendre.
En effet, il y a une mythologie nationale, cette idée que la terre, elle ne ment pas, qui fait que déjà dès la Troisième République, à l'époque des Jules Ferry, des Méline, il y avait une volonté de constituer une classe de personnes qui pouvaient voter, et ce sont ces électeurs qui sont originaires donc des campagnes, et il y a véritablement un rapport très fort de la constitution, de la construction de la République qui doit s'appuyer sur le petit propriétaire terrien. Et ça, c'est un des vecteurs qui a limité, qui a retardé en effet l'exode rural chez nous.
Et qui s'est fait en deux temps, hein, vous le rappelez, il a commencé au milieu, disons, du 19e siècle, et jusqu'en 1950, il s'agit d'un exode, je crois, en fait, d'ouvriers agricoles. Comme la Révolution, je crois, a créé, a multiplié les propriétés, les propriétaires sont restés, ils étaient très nombreux sur de petites parcelles, et ce sont d'abord les ouvriers agricoles qui sont partis, ou les ruraux, parce que les ruraux, c'est pas seulement les agriculteurs, les ruraux pauvres, c'est ça.
Et les micropropriétaires sont à ce moment-là très nombreux en France, alors que dans tous les autres pays d'Europe, ben, ils sont très peu nombreux. On a un siècle de décalage par rapport à l'Angleterre. Pour atteindre le chiffre qu'atteint l'Angleterre en 1850, plus qu'un quart de la population dans les campagnes, il faut attendre 1950 en France. Mmh. Un siècle de décalage. C'est quelque chose d'incroyable.
Date d'ailleurs d'une deuxième vague où cette fois-ci, pour des raisons de productivité, ce sont essentiellement les petits propriétaires qui s'en vont, si bien qu'aujourd'hui, il reste combien d'exploitants agricoles en France par rapport à 1950, Marc Potier?
Alors, aux alentours autour de 600 000, mais véritablement 450 à 500 000 qui sont des exploitants agricoles, des propriétaires fonciers, sans être des plus réactifs. Ce qui est important aussi à noter, c'est que par rapport à cet exode rural, ceux qui quittaient leur terre, quittaient leur campagne, qui quittaient leur province, allaient vers l'idée d'aller en ville trouver des métiers différents de ceux des métiers manuels. Il y avait un certain nombre de métiers qui étaient extrêmement attractifs, attirants, par exemple de devenir instituteur, de travailler en tant que fonctionnaire. Et lorsque, au 19e siècle, il y a eu cette bascule avec le début de la révolution industrielle, eh bien, aussitôt, on a été confronté à l'idée que les Français ne voulaient pas ce type de métier, ne voulaient pas cet enfermement dans l'usine, d'où la nécessité de faire appel à l'autre, à l'étranger.
l'étranger.
Voilà, ça c'est la deuxième grande migration qui commence, en fait, elle a commencé très longtemps. Hein. Après tout, la France a toujours été, a toujours accueilli plus ou moins volontairement des immigrants, les Normands, les Romains, etc. Mais la grande vague d'immigration, c'est le milieu, justement, qui commence au milieu du 19e siècle, et elle est faite essentiellement, vous le citez, de grands, venant de quel pays au début?
D'abord, ce sont les pays limitrophes à la France. Dès le milieu du 19e siècle, ce sont les Belges qui viennent travailler dans le textile, qui viennent donc dans le nord de la France en pleine industrialisation. Et puis, cette première grande vague belge va progressivement être remplacée par l'immigration, je dirais, emblématique en France, qui est celle des Italiens. Le grand courant italien dès les années 1870-80 va jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale être véritablement le plus important. On estime à plus de 3 millions les Italiens, les transalpins qui sont venus travailler en France.
Autre grande vague que vous citez aussi, les Polonais.
Bien évidemment, les Polonais, et cela c'est après la Première Guerre mondiale, des accords sont signés entre Paris et Varsovie en 1919, et ce sont plus de 500 000 Polonais qui vont venir travailler principalement dans les mines et dans la sidérurgie. Le secteur minier est à plus de 70, voire des fois 80% constitué de mineurs polonais.
Alors ça, c'est une immigration spontanée, volontaire, que la France sollicite, parce qu'elle a besoin effectivement d'une main d'œuvre qui est trop mobilisée à ce moment-là encore dans les campagnes. Mais il y a aussi tous les gens, vous les citez, Marc Potier, qui quittent leur pays parce qu'ils en sont chassés, parce qu'ils y sont menacés. Les Juifs d'Europe centrale qui fuient les pogroms et plus tard le nazisme. Les Arméniens qui fuient le génocide. Les Italiens ou les Allemands antifascistes, les Espagnols fuyant le franquisme, et que l'on va retrouver d'ailleurs tous pendant la guerre, dans la résistance, et sur cette affiche rouge que les Allemands avaient affichée sur tous les murs de France, après avoir arrêté et fusillé 23 résistants étrangers du groupe Manoukian, dont nous parlait un jour un résistant juif polonais de l'époque, Henri Krasucki, dans 2000 ans d'histoire.
Ces étrangers, ils ont combattu, ils ont risqué, ils ont souffert, et beaucoup ont donné leur vie pour la France et pour la liberté. Ils ont contribué à écrire une belle page de l'histoire de France, et les survivants se sont tout naturellement intégrés dans notre peuple, dans la nation française.
Manoukian, Arménien, 56 attentats, 150 morts, Grivach. Juif polonais, 2 attentats. Elek, juif hongrois, 8 déraillements. Fontano, communiste italien, 12 attentats. Alfonso, espagnol rouge, 7 attentats. Weisbrot, juif polonais, 1 attentat.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. Noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Ils étaient 23, quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Léo Ferré, l'affiche rouge et ses 23 fusillés du groupe Manoukian, dont les survivants, disait Henri Krasucki, se sont parfaitement intégrés. En fait, cette première vague d'immigration polonaise, italienne, ne s'est pas intégrée aussi facilement que ça, Jean-Pierre Guillemot.
Elle a été parfois très douloureuse. Il y avait de véritables chasses à l'homme. On a lynché des Italiens dans les années 20, et il est très instructif de regarder ce que disait la presse à l'époque. La presse utilisait contre les Italiens des arguments utilisés quelques décennies plus tard contre les Maghrébins. L'Italien Italien, c'était le tricheur, le roublard, l'homme qui touchait aux femmes et qui sortait son couteau. On parlait tout à l'heure des Polonais. On sait trop rarement que parmi ces Polonais, il y avait au bas mot un quart d'Ukrainiens, mais qui ont été considérés par l'autorité qui précédait de quelques années celle de Vichy comme des apatrides et qui ont été abusivement considérés comme des Polonais. Et aujourd'hui, la communauté ukrainienne est très développée en France parce que, je le répète, parmi tous les Polonais, les soi-disant Polonais venus en France et que citait tout à l'heure Marc Potier, un quart d'Ukrainiens.
J'étais très surpris, Marc Potier, d'apprendre en vous lisant qu'avant la guerre, il y avait proportionnellement plus d'étrangers en France ou d'immigrés en France qu'aujourd'hui.
En effet, les chiffres étaient légèrement supérieurs à 7,3-7,4% en 1931, qui est le summum avant les lois de 1932 et avant la crise économique où il y a cette fois-ci donc une baisse du nombre d'étrangers. Nous sommes dans des proportions quasiment équivalentes à ce que nous connaissons aujourd'hui.
Alors cette intégration s'est quand même faite pour ce qui concerne les Italiens, les Polonais, les autres groupes arrivés avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était plus difficile en revanche avec la deuxième vague d'immigrants qui, à partir du début du XXe siècle, sont venus d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire et qui ont fait souche après leur arrivée en France, dans les usines ou encore dans l'armée en 1914 ou comme dans cette archive en 1939.
Marseille, dont l'animation est encore plus grande qu'en temps normal, voit passer chaque jour d'innombrables troupes coloniales venant volontairement lutter pour leur patrie et leur liberté menacée. Un régiment de tirailleurs algériens vient de débarquer et se dirige vers la gare. Le même navire a amené des spécialistes nord-africains pour participer aux travaux agricoles.
Nous sommes des fils d'émigrés, des enfants d'émigrés. On a notre physique maghrébin. J'ai pas besoin d'afficher ma carte d'identité française sur mon front.
Ils sont pas étrangers, ils sont français, parce que maintenant ils sont là depuis je sais pas combien de temps.
Il revient à ma mémoire des souvenirs par milliers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Que chanter à pleine voix, des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chère pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je vais garder dans mon cœur.
Douce France de Charles Trenet, chanté par carte de séjour, les descendants justement de ces immigrés venus du Sud, d'Afrique du Nord, mais aussi d'Afrique noire. Quand est-ce qu'a commencé cette immigration? Que venaient faire ces immigrants venus de nos anciennes colonies à l'époque? Il faut le rappeler, Marc Potier.
Ces immigrants originaires d'Afrique du Nord arrivent déjà dès avant la Première Guerre mondiale, ce qui est relativement peu connu. Mais la grande vague, c'est véritablement celle des Trente Glorieuses entre 1945 et 1974. Et surtout années fin 50-60, là nous avons ce grand rush d'Algériens, de Marocains et Tunisiens qui viennent apporter leurs bras dans une France qui se construit, se reconstruit, dans une France de la prospérité, ces emplois de main-d'œuvre, de terrassiers dans les grandes usines de l'automobile, ces OS, ce sont ces immigrés nord-africains.
Vous dites Tunisien, Algérien, Marocain, mais vous dites pas Tunisienne, Algérienne, Marocaine, c'est une immigration essentiellement masculine.
C'est en effet une immigration essentiellement masculine, les femmes vont venir après, avec le regroupement familial. Ce qui est intéressant à voir aujourd'hui, c'est que maintenant, dans les années 80 et 90, nous avons, au contraire, une immigration féminine qui est de plus en plus importante. Ça, ce qui est un différentiel par rapport justement à ce temps où c'était plutôt le travail manuel, le travail physique, le travail du monde ouvrier qui était celui le plus important.
Alors ça, c'est une immigration, c'est un peu comme la précédente d'ailleurs, qui est spontanée, qui est même sollicitée par la France. En revanche, il va y en avoir plus tard qui le seront beaucoup moins. Je pense par exemple aux Harkis qui sont évidemment, qui ont été contraints de quitter leur pays pour ceux qui ont réussi à le faire, Jean-Pierre Guénaud.
Oui, tout à fait, mais tous ont un point commun. S'il est vrai que les Trente Glorieuses sont une période de prospérité, elles commencent par une période de grande pauvreté. Dans les années 50, l'abbé Pierre sort du bois. Et quand la plupart de ces gens arrivent seuls, contrairement aux familles qui venaient d'Europe centrale avec femmes et enfants quelques décennies plus tôt, on les parque dans ces bars, dans ces logements qui sortent de terre. Et il y a là une forme de ghettoisation qui va concerner ces populations qui n'a pas forcément été la même pour les vagues précédentes.
Marc Potier, là-dessus?
Là, on est aussi au cœur.
Mais pour les harkis, parce que là, ce dont parlait Jean-Pierre Guénaud, c'est pas encore les harkis. Les harkis, c'est 62, bien sûr, c'est l'indépendance de l'Algérie. Là, c'est une immigration contrainte de gens qui ne peuvent plus rester chez eux et qui ne peuvent plus repartir chez eux aujourd'hui une fois qu'ils sont en France.
Absolument. Et là aussi, on a finalement une sorte de rapport négatif à notre passé colonial. Ces harkis qui se sont battus pour nous, on les a parqués, on les a enfermés, on les a volontairement ghettoisés. Et je crois que c'est aussi une vision négative de notre histoire que l'on n'arrive pas à assumer, on n'arrive pas à assurer. On est au cœur de ce qu'on appelle le divorce colonial.
Alors il y a aussi, vous l'évoquez, on ne peut pas parler d'immigration parce que ce sont des gens de nationalité française. Vous l'évoquez, Jean-Pierre Guénaud, il y a des lettres de pieds noirs venues en même temps d'ailleurs que les harkis. Mais c'est une migration énorme. Il faut rappeler qu'il y avait à peu près 1 million de Français d'Algérie, les autres n'étant pas de nationalité française, c'est-à-dire les Algériens n'étaient pas, et qui arrivent en France très mal accueillis, mais relativement bien intégrés, même s'ils ont la nostalgie du pays.
C'est une migration énorme, et puis souvent qui est arrivée dans le cadre d'une sorte de légende. De la même façon qu'on avait tendance à faire croire avant la guerre que les immigrants juifs étaient tous des spéculateurs, de vils exploiteurs, on a donné à croire, pour rassurer la population au moment où les pieds noirs rentraient en masse en France, que tous ces gens-là étaient de vrais colonialistes, alors que ce qui frappe dans toutes les lettres que nous avons reçues, c'est que la plupart des pieds noirs sont des gens qui exerçaient de tout petits métiers, de toutes petites gens, et que ça n'a rien à voir avec l'image caricaturale que l'on donne du colon.
Alors ce qui est frappant quand même, c'est que tout le monde s'accorde à dire que ces pieds noirs, et ils l'ont prouvé dans l'entreprise, ils l'ont prouvé dans bien des endroits, se sont bien intégrés, ce qui n'est pas le cas des harkis venus en même temps. Alors là, ça pose la question de l'intégration, justement, de ces populations venues d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui empêche leur intégration? Est-ce que c'est le fait, d'abord, qu'elle est plus récente que les immigrations polonaises ou italiennes dont nous avons parlé?
Il y a de toute façon un problème qui est rémanent. Vous remarquerez, Patrice Gélinet, que dans les débats sur l'Europe, on a posé le problème de la Turquie aujourd'hui. On n'a jamais poser le problème de l'intégration des pays du Maghreb, en particulier d'Algérie, dans l'Europe. C'est quand même un grand paradoxe quand on sait le passé qui nous unit, quand on sait ce qu'a été le bassin méditerranéen pendant si longtemps.
Oui, mais bon, est-ce qu'on peut, on peut évoquer le fait qu'elle est plus récente, Marc Potier, on peut évoquer le fait des raisons, évidemment, culturelles et notamment religieuses.
Religieuse, pas évident, parce que de même.
On dit souvent qu'il est plus difficile.
Vous savez, on avait exactement ce même type.
Des populations musulmanes que des populations chrétiennes, c'était le cas des premières vagues d'immigration.
On avait exactement ce type de constat ou de discours dans les années 30, en disant que les Polonais étaient trop catholiques pour s'intégrer dans notre société. Certes, il y a des difficultés, mais ces difficultés, elles sont probablement la résultante de conditions d'existence, de conditions aussi de rapport au travail. Il y a des moments où il y a un certain nombre de vecteurs qui permettent l'intégration. Le travail, l'école, le syndicalisme, des partis politiques structurés, un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui sont probablement en pleine difficulté.
Puis il y a peut-être aussi l'importance numérique, le nombre de ces immigrants donc arrivés depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Portugais, Algériens, Italiens, Sénégalais, Maliens, ils représentent 8,5% de la population active française. Avec leur famille, cela fait 6,5% de la population totale.
J'ai vécu toute ma vie ici. Bon, si un jour on venait à m'expulser, j'arriverai en Algérie. Je connais pas l'Algérie. Ici, on est immigré, on retourne chez nous, on se considère comme immigré.
Je suis Tunisien. Quand je suis parti de là-bas, j'avais déjà mon bac. Puis j'avais cru que la France, quoi, c'était le paradis, quoi. Puis quand je suis arrivé là, ben, j'ai vu la vérité en face, quoi. Nous sommes méprisés, voilà, c'est ça. On passe 8 heures à l'usine et puis on rentre là, bon, on passe la nuit au foyer, la journée au foyer. On est toujours des Arabes. Les gens, eh ben, ils parlent devant moi des bounoules, quoi. Ils les appellent bounoules ou des ratons.
Ça existe encore, ça.
Oui, ça existe.
Que tu sois de
ce qui
est pathétique, Jean-Pierre Guénot, dans les témoignages qu'on a entendus, c'est qu'ils sont immigrés et considérés comme tels en France, même quand ils sont de nationalité française, mais ils seraient immigrés s'ils retournaient dans leur pays, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils ne souhaitent même pas faire, car cette immigration, elle est irréversible.
C'est ce que beaucoup disent dans les textes réunis dans Chapelet de mon enfance. Beaucoup ont essayé, ne serait-ce que par le biais des vacances, que ce soit au Portugal ou dans les pays du Maghreb. Et ceux, en tout cas de la première génération, ont définitivement les fesses posées sur deux chaises. Ils sont dans leur pays, ni dans leur pays d'adoption, ni dans leur pays d'origine. Et la plupart ont tendance à avouer que tout ça, c'est un mythe. Ce qu'ils regrettent, c'est leur enfance, c'est leur jeunesse. Tous ont le courage de dire que leur chance, à tous, migrants de l'intérieur, Bécassine, ou immigrés de fraîche date, Samira, c'est d'avoir osé s'arracher. C'est ce qui a fait la chance de leur vie, c'est ce qui leur a permis de construire leur existence.
Oui, mais tous en même temps, on le sent dans ces lettres, ils ont une grande nostalgie de leur pays d'origine, ou du pays d'origine même de leurs parents ou de leurs grands-parents qui sont venus, ou qui sont même venus de la campagne, vous parlez de Bécassine, mais en même temps, est-ce que c'est pas un risque de repli identitaire, au fond, et de communautarisme, que vous considérez vous-même, d'ailleurs, Jean-Pierre Guénot, comme un danger? Parce que c'est un danger de morcellement, ça divise, ça exclut, au lieu de rassembler et d'intégrer.
C'est un danger, mais tous finissent par reconnaître que ce qui est intéressant, c'est pas de regarder dans le rétroviseur pour cultiver la nostalgie du passé. Tous reconnaissent que la vraie nostalgie, c'est celle, je le répète, de leur enfance et de leur jeunesse. Mais tous disent une chose, c'est ce qui est important, c'est le destin commun que tout cela nous donne. Nous sommes vraiment riches aujourd'hui, c'est la grande leçon de Chapelet de mon enfance, de l'agrégation de nos métissages, de nos différences et de nos métissages. C'est ça la grande leçon à en tirer. Qu'est-ce que ça veut dire être parisien aujourd'hui? Nous sommes tous déracinés en Île-de-France.
Marc Poitier, là-dessus.
C'est en effet la chance de la France d'avoir été capable d'accueillir, d'assimiler, comme on disait à une époque, d'intégrer. Oui, mais l'avenir nous dira que nous sommes dans une obligation aujourd'hui d'accueillir encore d'autres étrangers. Cette France qui ne fait pas assez d'enfants, dans une Europe aussi vieillissante, est une France qui doit accueillir des étrangers d'au-delà de l'espace de Schengen, parce qu'autrement nous ne serons pas capables d'affronter les défis d'avenir.
Merci Marc Poitier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres publiés aux éditions de l'Aube, Parole de Déraciné, un ouvrage écrit avec Jean Viard, et Dialogue sur nos origines, également écrit avec Jean Viard et Jean-Pierre Guénot. Vous êtes également l'auteur d'un petit fascicule de documents d'archives intitulé L'immigration, publié aux éditions France Bleu et du Mémorial de Caen. Quant à vous, Jean-Pierre Guénot, vous êtes le directeur des éditions de Radio France et vous avez dirigé « Cher pays de mon enfance », un beau livre, nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui, richement illustré, publié aux éditions des Arènes et qui est également disponible moins cher, mais pas illustré, pour 2 € chez Librio. Vous avez pu entendre un extrait de « L'immigration, 30 ans d'illusion », un documentaire de Jean-Michel Gaillard, Stéphane Kémis et Olivier Lamour, diffusé l'an dernier sur France 5, ainsi qu'une archive Pathé 1939, disponible en VHS chez Montparnasse Vidéo. D'autres références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur notre site franceinter.com, d'où il est possible, vous le savez, depuis le début de l'année, de télécharger l'émission du jour en cliquant sur la rubrique podcast. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation archives sonores Camille Pouc-Jalaguier et Claire Tessé, une réalisation de Anne Comilac.